susurro, podrido, maldito droga, susurro, podrido, maldito droga, podrido hogar, podrido, seguro hogar europeo, seguro hogar, podrido hogar, libre y bello hogar europeo.
Comment on fait ?
Peut-être qu'il faudrait... Est-ce qu'on peut pas éloigner le micro du boîtier ?
Ouais, je peux essayer. Je peux essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça donne en... Ah, parce que du coup, c'est de la basse fréquence. On l'aurait pas...
Je sais pas quel appareil vous avez.
Celui-ci.
Non, il commence à 50 MHz. Donc,
ça dépasse mes compétences techniques.
Les basses fréquences, en fait, c'est le courant... C'est le courant 50 Hz et les champs magnétiques des appareils, des frigos. Ces appareils-là, ils ont un champ électrique et un champ magnétique. Et dans les fréquences plus hautes, les deux sont réunis comme les téléphones portables. Donc c'est un champ électromagnétique. Donc ça mesure les champs électromagnétiques. On peut essayer et puis si jamais ça ne va pas, je vous le dirai.
Ouais, ouais, très bien. Ça. Je vais quand même l'éloigner au départ. Je vais le mettre là. Bah, mets-toi là, Nico, peut-être. Tu feras barrière naturelle un peu. Assieds-toi là. Je vais me mettre devant vous. Je vais essayer de le garder éloigné.
Donc je m'appelle Hélène. J'ai 36 ans. Et je suis électrosensible depuis presque 8 ans maintenant. Bien, je suis sensible au courant, donc aux 50 Hz. Ça, c'est ce qu'on appelle les basses fréquences. Et je suis sensible également aux champs électromagnétiques. Donc ce qu'on appelle les hautes fréquences, les portables, les Wi-Fi, les antennes relais. Et... tout ce qui est sans fil, en fait.
Les gens qui viennent me voir sont des malades, et des vrais malades. C'est-à-dire des gens qui, si vous voulez, lorsqu'ils sont exposés à des champs électromagnétiques, ont des symptômes cliniques qui ont progressé le plus souvent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui finissent par aboutir à un tableau excessivement sévère d'intolérance aux champs électromagnétiques, ce qui fait que ils ont une vie qui devient quasiment impossible dans les conditions actuelles de notre société. Et puis ça peut évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Donc quand moi je vois ces malades en consultation, ce sont de vrais malades qui sont pour un grand nombre d'entre eux en état pré-Alzheimer et il va falloir donc les faire le diagnostic avec des critères objectifs et les traiter le plus tôt possible car si tel n'est pas le cas, l'intolérance au champ électromagnétique risque d'évoluer vers un tableau de maladie d'Alzheimer.
Depuis le rayonnement du soleil au four à micro-ondes, en passant par la télé et la radio, les ondes électromagnétiques font partie de notre quotidien. L'arrivée du portable, de la Wi-Fi, les ont rendues simplement omniprésentes. 7 milliards de téléphones portables dans le monde. Alors la 3G, la 4G, le Wi-Fi partout, il devient impensable de ne pas être connecté en permanence. Et vous, vous téléphonez combien d'heures par jour ? Sans compter les téléphones fixes mais sans fil, et les babyphones, etc., etc. Pourtant, ces ondes ne sont pas inoffensives. Vous rappelez ? L'histoire de la vieille dame qui, voulant faire sécher son chat, le mit dans le micro-ondes. Paf le chat ! On a bien ri de cette légende urbaine dans les cours d'école avant que les antennes relais de téléphonie mobile ne les inondent d'ondes à leur tour. Ces ondes sont de la même famille, peut-être moins concentrées, peut-être un peu plus haute fréquence. Maintenant, c'est nous le chat, et ce n'est pas sûr qu'on va rigoler jusqu'au bout. C'est simplement une histoire de seuil de tolérance aux ondes. De plus en plus de personnes commencent à ressentir des effets que la plupart ne perçoivent pas. Par exemple, nous avons rencontré Hélène, qui était informaticienne et pas du tout baba cool comme elle dit. Rien ne la prédisposait à être contre les ondes. Jusqu'au jour où, après un déménagement à proximité d'une antenne, elle développe une électro-hypersensibilité. Maux de tête, insomnie, picotement. Elle nous raconte tout ça, sa vie, celle d'avant et la nouvelle, ses espoirs et ses difficultés. Nous avons aussi interrogé le professeur Belpomme, professeur de cancérologie à l'Université de Paris, Descartes. Son constat est simple. Il y a des malades, on fait quoi ? En s'appuyant sur un protocole qu'il a mis au point, il a diagnostiqué plus de 1000 électro-hypersensibles. La science n'a pas fini de trancher et l'épidémiologie dira toujours qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est imparable, les liens de cause à effet. Et selon le même raisonnement, l'amiante ne donne pas le cancer. En tout cas, pas tout le temps. On n'est pas sûr. Le charbon n'est pas forcément nocif. Et le nucléaire, bon, c'est pas pire, on ne sait pas en fait. Écoutez Annie Thébaumoni sur le sujet. Elle est éloquente sur cette science du doute qu'est l'épidémiologie. Alors, on est aussi allé déterrer un entretien avec Jacques Dapose, qui en 1999, 16 ans déjà, sortait un tout petit livre aux éditions Talus d'Approche, sobrement intitulé « Ondes électromagnétiques et santé ». Alors, nous ne voulons pas alimenter une quelconque phobie, nous noyer dans les mesures, des expertises, des peurs. Mais face au discours publicitaire ou pseudo-scientifique asservi aux intérêts économiques, rappelez que nous ne sommes pas toutes aussi résistantes. D'un côté, la force de l'écrasante majorité, le confort de la normalité dans un monde connecté. De l'autre, une minorité dont la vie est rendue impossible par les ondes. Et puis, nous tous, nous toutes, qui ressentons quand même tout ce qui se passe. Simplement, on n'en a pas conscience.
Alors j'ai commencé à ressentir ces troubles, c'était en 2006, et à l'époque je venais d'emménager dans un nouvel appartement. Donc j'avais quitté le domicile familial, qui est une villa non mitoyenne, avec très peu d'ondes, et je me suis retrouvée en appartement. À cette époque-là, je ne connaissais rien sur le sujet des ondes, on n'en parlait pas d'ailleurs. Et j'avais un téléphone portable, comme tout le monde, je l'utilisais assez modérément. Peut-être une ou deux heures par mois. Et voilà, je travaillais dans l'informatique. Donc j'avais déménagé pour me rapprocher du bureau. Et les troubles ont commencé quelques mois après mon déménagement. Donc cet appartement, il était à Croix-d'Orade, dans le quartier de Croix-d'Orade à Toulouse. Et il était en vue directe du pylône, qui est avenue d'Atlanta, et qui est garni une douzaine d'antennes, entre 12 et 15 antennes. Et donc c'était un deuxième étage en vue directe. Mais bon, pour moi, ça faisait rien, quoi. Ça faisait partie du paysage. Pour moi, c'était complètement anodin. C'est comme si je le voyais pas. Et puis j'ai commencé à avoir des insomnies. J'ai commencé à avoir des acouphènes très forts. Des troubles physiques, des douleurs musculaires, des tensions musculaires, des choses que les médicaments ne pouvaient pas soigner, arrêter. Je prenais des anti-inflammatoires quasi constamment, en fait. Je m'endormais à 4 heures du matin, j'étais très irritable. Je ne pouvais pas dormir avant, en fait. C'était très particulier et il n'y avait aucune explication. Et à un moment donné, le portable a commencé à me faire des douleurs dans les oreilles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais le portable à l'oreille, j'avais comme si on m'enfonçait des aiguilles dans les oreilles. C'est pas de la chaleur, c'était vraiment comme une inflammation. D'ailleurs, il y avait une inflammation qui était attestée par des ORL, et j'avais des médicaments pour calmer les inflammations. Et à un moment donné, ça ne m'a plus été possible de mettre un portable à l'oreille. Donc j'ai arrêté d'utiliser un portable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais le téléphone à l'oreille, j'avais le conduit qui augmentait, qui enflait à l'intérieur. J'avais de la fièvre. Je devais me coucher. Et ce, même si j'utilisais le haut-parleur. C'est-à-dire que j'avais le portable. C'était pas une histoire de... Comment dire de, je ne sais pas, d'impuretés qui pourraient rentrer dans l'oreille, créer une irritation ou quoi. C'était vraiment... Même si j'avais le portable comme ceci, à 30 cm de mon corps, j'avais des réactions dans mon corps, avec les tensions, etc. Donc, mon médecin m'a simplement conclu que j'étais devenue allergique au portable et il m'a conseillé d'arrêter de l'utiliser. Mais je n'ai pas fait le lien encore avec les téléphones sans fil, avec les Wi-Fi des voisins, les antennes, etc. Et c'est ensuite, quand j'ai commencé à dormir à l'extérieur de chez moi, dans des endroits où il n'y avait pas d'onde, en fait, parce que pas de voisins et pas d'antenne proche, que je me suis rendu compte que là, je dormais et que mes maux de dos disparaissaient si je dormais là assez longtemps. Et là, j'ai fait un lien, quoi. Et c'est aussi l'association Robin des Toits qui m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'était les ondes et ce que ça faisait. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas toute seule à avoir cette kyrielle de symptômes que les médecins pouvaient pas m'expliquer.
Voici quelques années, comme dans pas mal d'autres milieux professionnels, on a commencé à s'équiper de téléphones portables, notamment pour des questions de facilité d'accès, de communication en matière d'urgence notamment. Il se fait donc que j'ai été, comme pas mal d'entre nous, équipé d'un téléphone portable à titre professionnel, voici quelques années, et que assez vite, j'ai été frappé par un certain nombre de phénomènes, à savoir que au cours des conversations, des communications qui pouvaient parfois être un peu longues. Je veux dire qu'une conversation pouvait durer 10 minutes, un quart d'heure parfois. Je me rendais compte que je percevais, on peut parler au départ d'impression, parce que ce n'est pas nécessairement si clair que ça au début, une impression de mal de tête, une impression de douleur au niveau de l'oreille. En tant que radioamateur, j'ai connu un fait divers ici en Belgique, à savoir que un radioamateur belge qui s'appelle Marcel Gillissen, il y a quelques années, faisait des essais avec un tout petit appareil de faible puissance qu'il testait dans son petit laboratoire, dans son atelier de radioamateur. Et il émettait, en somme, sur des fréquences relativement comparables, relativement proches de celles qu'utilisent les téléphones portables, et avec une puissance bien plus faible que celle d'un téléphone portable. Et ce radioamateur parfaitement qualifié qui testait ce petit appareil qu'il avait mis au point a été victime d'un accident. En fait, il a été victime d'un accident et l'appareil qu'il testait en fait lui a causé une lésion au niveau d'un œil, de la cornée, et cet accident, sans jeu de mots, m'est revenu très vite en mémoire, et sans jeu de mots m'a mis la puce à l'oreille, à la fois sur un plan informationnel, sur un plan journalistique, mais aussi tout simplement parce que le fait de me souvenir de cet accident-là m'a fait penser que cet appareil, ce téléphone portable, était aussi un émetteur de radio, et qu'il pouvait bien se passer effectivement des choses très concrètes au niveau de l'antenne émettrice de ce petit appareil.
Quand j'ai commencé à ouvrir une consultation de médecine environnementale à Paris pour prendre en charge ces malades-là, je suis cancérologue de formation, bon, vous savez que l'OMS a reconnu que l'exposition abusive, non seulement aux basses ou extrêmement basses fréquences, mais aux radiofréquences et hyperfréquences, ben, c'était possiblement cancérigène. Quand j'ai commencé en 2008, la plupart des malades venaient d'eux-mêmes, parce que il y a une émission de télévision où j'étais invité assez dans l'air, où j'ai expliqué ce que pouvaient être, si vous voulez, les effets sanitaires néfastes des champs électromagnétiques sur l'organisme, et surtout un traitement. Alors, en combien de temps on fait le diagnostic? On fait le diagnostic en 6 semaines. Je vois les malades, d'abord je les examine au plan clinique, je les écoute, et puis ils vont passer des tests, et 6 semaines plus tard, lorsqu'on a recueilli les résultats des tests, eh bien, on porte un diagnostic ou non d'intolérance au champ électromagnétique et d'électro-hypersensibilité. Alors, dans ma série de milliers de malades dont je parle, il y a à peu près 5 à 10% de malades qui croyaient avoir une électro-hypersensibilité et qui, en fait, ont une autre pathologie, ou en tout cas qui ne répondent pas aux critères diagnostiques que j'ai pu mettre au point. Ce qui veut dire que 90% des malades sont réellement malades et malades des champs électromagnétiques. C'est ça l'essentiel.
Si vous allumez une simple bougie et que cette bougie se trouve à 50 cm ou à 1 mètre de vous, c'est merveilleux, cette bougie va vous donner de la lumière, peut-être un peu de chaleur, mais enfin bon, pas de problème, pas de danger. Si vous rapprochez cette bougie à 1 ou 2 cm de votre peau, de votre visage, vous risquez d'avoir très très mal et vous pourriez même vous brûler. Vous voyez, c'est un peu... Je fais l'analogie volontairement parce qu'elle est simple à comprendre, mais ce petit émetteur, récepteur qu'est le téléphone portable, eh bien, il dégage en somme une puissance un peu comparable à celle-là. Si ce n'est que la grande différence, c'est que nos réflexes, l'être humain, l'animal et l'être humain, ont des réflexes tout à fait précis pour ce qui est de réagir à un excès de lumière ou à un excès de chaleur. Notre système nerveux est conçu pour cela. Il va ressentir une chaleur qui ne lui convient pas ou il va ressentir une lumière qui ne lui convient pas et de manière tout à fait réflexe, presque spontanée, nous allons réagir en fermant les yeux ou en éloignant la source de chaleur. Pour ce qui est des ondes électromagnétiques, eh bien, il n'y a aucun réflexe naturel. Notre organisme n'est pas équipé pour réagir aux éventuelles agressions, sauf si elles sont extrêmes, hein, ce qui est le cas quand on commence vraiment à sentir des choses à son oreille ou autour de la tempe, comme je l'ai vécu. Mais de manière spontanée... Vous savez, vous pouvez vous promener à côté d'un émetteur très puissant de radio, de télévision, vous n'allez pas spécialement ressentir quelque chose de particulier. C'est peut-être à plus longue échéance qu'on va commencer à se rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Mais nous n'avons pas de réflexe. Et voilà un des aspects du problème.
Ce qui m'a poussé à déménager, c'est qu'une bénévole de Robin des Toits est venue mesurer dans mon appartement. Je m'en souviens très bien, c'était en semaine et en matinée. Donc, c'est-à-dire, c'est des moments où il y a normalement peu d'ondes parce que les gens sont au travail. Donc, peu d'utilisation des portables, donc peu de sollicitations des antennes. Et puis, les voisins ne sont pas là. Et il y avait 3 volts par mètre en semaine, en matinée. Donc, c'était extrapolé à 4 volts et demi par mètre, soirée, week-end. Donc, c'était énorme. Sachant que les recommandations pour la santé, c'est 0,6 volts par mètre.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te définis comme électrosensible ?
Ben, c'est là que j'ai compris, en fait, que je n'avais pas juste un problème de réactivité au téléphone portable, mais que c'était toutes les ondes, y compris les basses fréquences, c'est-à-dire le courant. Comme je faisais des petits séjours de sommeil chez mes parents, dans une maison donc non mitoyenne, et avec... Et sans ondes, en fait, sans wifi, sans téléphone, sans fil. Petit à petit, en fait, j'ai réemménagé chez mes parents. Et là, mes troubles ont commencé à diminuer. Il a fallu que je fasse des mesures. Parce qu'entre-temps, je me suis acheté un appareil de mesure. Je me suis rendu compte que c'était quand même indispensable quand on avait ma sensibilité, qui est particulière. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait moins d'ondes au rez-de-chaussée. Donc, j'ai emménagé au rez-de-chaussée, dans le salon, en fait. Et voilà. Et j'y vis toujours. À l'époque, il y avait très peu d'informations. Donc, pour moi, ça a été une prise de conscience qui était lente et vraiment étalée sur le temps.
Est-ce que tu en as parlé à des gens autour de toi ? Et est-ce que tu te souviens des premières réactions et des moments où tu n'as pas encore l'expertise, où tu n'as pas encore les machines qui te permettent de mesurer, peut-être le discours qui te permet d'argumenter ? Est-ce que tu parles de ça ? Est-ce que tu te souviens des premières réceptions de ça ?
Je me souviens pas trop, non. Mais globalement, ma famille a été très compréhensive. Et quand on se voit, ils éteignent tous leur téléphone portable et ils débranchent les Wi-Fi. Je me sens vraiment comprise par ma famille. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les électrosensibles. Il y a des cas vraiment compliqués dans les couples, dans les familles. Donc moi, j'ai cette chance.
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie sociale à ce moment-là?
Ma vie sociale, c'est simple, hein, elle a été remise à zéro. Parce que à l'époque, je sortais plutôt pas mal. Des fêtes, je sais pas moi, des cafés. Voilà, ce que fait une personne de 28-30 ans, normal quoi. Et, sauf que ce sont des endroits où tout le monde a des téléphones. Et moi, c'était des lieux dans lesquels je me sentais extrêmement mal. C'est-à-dire que je sortais de là, j'avais mal partout, j'avais mal pendant plusieurs jours, parce que quand je suis exposée, en fait, il me faut plusieurs jours ensuite pour récupérer. Donc, naturellement, en fait, j'ai arrêté de sortir et de fréquenter les personnes qui éteignaient pas leur téléphone parmi mes amis. Et voilà, et puis donc, j'ai des amis qui sont toujours mes amis, qui sont restés. Et d'autres que je ne vois plus aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Oui, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'au début ça a été un petit peu, c'était pas facile d'accepter qu'il y ait des relations qui se terminent. Bon, c'est une acceptation, c'est un cheminement intérieur à faire et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Maintenant j'ai des amis qui sont formidables, qui éteignent tout, qui débranchent tout quand je vais les voir. Moi je peux pas trop aller dans les immeubles. Parce que à cause du voisinage, en fait, à cause des Wi-Fi, des téléphones sans fil du voisinage, en quelques heures, je suis vraiment KO. Mais voilà, je peux voir des amis dans des parcs, dans des lieux qui sont un petit peu moins exposés.
Chez les jeunes de 18 à 24 ans ont tendance à être anxieux quand leur téléphone est perdu ou à court de batterie ou quand ils n'ont aucune couverture.
Si je vous dis no mobile phone phobia,
de cette peur excessive d'être séparé de son téléphone,
environ
mobile,
58% d'hommes et 48% de femmes souffrent de cette phobie.
Pour moi, le smartphone, c'est le prototype des, des prothèses de l'avenir. Hein. Je pense qu'il va évoluer considérablement et probablement sous la forme de téléphone, il va disparaître. Mais je pense que ces prothèses sont inévitables et que l'homme de l'avenir sera entièrement prothésé.
Alors, si vous êtes de ceux qui consultent leur smartphone 150 fois par jour, soit en moyenne toutes les 6 minutes et 30 secondes au cours d'une journée de 16 heures.
Et puis, sommes-nous tous de grands drogués au smartphone ?
Quand j'ai pas de batterie, quand je commence à approcher les 10%, je stresse.
Je pense qu'on est tous hyper dépendants du téléphone.
Est-ce que vous connaissez, vous tous les deux, et même vous, Anissa, est-ce que vous connaissez des gens qui n'ont pas de téléphone portable ?
Non.
J'en connais une seule.
Une seule, elle peut pas nous appeler parce que j'aimerais savoir comment elle vit aujourd'hui.
Elle vit très bien.
Le chiffre assez terrifiant, un smartphone addict moyen vérifie, dites-vous, en moyenne 150 fois son mobile par jour, soit toutes les 6 minutes. 53% des Français utilisent leur appareil dans une file d'attente, 36% aux toilettes et 74% des gens ne sortent jamais de chez eux sans leur smartphone.
Moi qui ai une sensibilité plutôt écologique, maintenant je suis voiture à fond. Parce que je ne peux pas prendre les transports en commun. C'est vrai, je peux pas... Tout le monde a un téléphone, un smartphone, même dans le métro où a priori ça capte pas. Les gens ont des téléphones, mais du coup, comme ils ne sont pas éteints, ils cherchent à pleine puissance le réseau. Et à la limite, c'est presque pire pour moi d'être en souterrain dans la cage métallique du métro que d'être en plein air. Donc oui, je vais en ville de temps en temps. Tous les électrosensibles ne peuvent pas faire ça. Moi, j'y vais de temps en temps, je reste peut-être 2 heures, je fais ce que j'ai à faire et puis je rentre, enfin, 2-3 magasins, moi, pour s'habiller, pour acheter, je sais pas, des produits culturels et puis je rentre. Et après, je sais que dans la journée, je pourrais rien faire d'autre, il me faut juste me reposer. Mais bon, c'est un rythme à trouver. Mais je peux me permettre ça aussi parce que je vis, je dors dans un endroit qui est relativement peu exposé. Voilà.
Et du coup, des lieux de sociabilité où il y a plein de gens, tu n'y vas plus ?
Non, les cafés, tout ça.
Ouais, cafés, concerts...
Ah non, non, non.
Théâtre, ouais. Cinéma ?
Non, je suis allée une fois au cinéma il y a 2-3 ans et c'était horrible. Je vais uniquement dans les endroits où il y a peu de gens. Par exemple, je prends des cours de chant, on est trois. Voilà, on est trois élèves et la prof, donc ça je peux, il n'y a pas de souci. Non. Tout le reste, je peux pas. Il y a des électrosensibles qui sont vraiment des détecteurs automatiques. C'est-à-dire, vous allez les balader, mettre en voiture, même les yeux fermés, ils vous disent « Ah là, à droite, il y a une antenne, là, il y a ceci, là, il y a cela. » Moi, c'est pas mon cas, je suis pas un détecteur automatique. Par contre, c'est vrai que différentes sources créent différents symptômes dans mon corps. Par exemple, les basses fréquences, ou comme des appareils électroménagers ou des frigos, je sais pas, ou d'autres choses. Ça crée en moi comme un blocage au niveau de la mâchoire et du cou. Mais je sais pas pourquoi. Et les Wi-Fi, je vais avoir des acouphènes qui sont beaucoup plus grands, soudain. Donc là, je peux dire, ah tiens, là, je sais que je sens un Wi-Fi. Je sais qu'il y a une box qui n'est pas loin. Mettons, si je suis chez une amie qui a tout débranché, et soudain, je sens que j'ai vraiment des crissements dans les oreilles qui augmentent de manière très forte, je sais que derrière la cloison, il y a une box. Après, je peux mesurer et dire, ah oui, effectivement, parce que j'ai un appareil de mesure qui a un analyseur de spectre sur la bande de 2,4 GHz. Donc, je peux voir s'il y a du Wi-Fi, notamment. J'utilise des termes un peu techniques peut-être. Un analyseur de spectre, c'est juste un petit histogramme qui vous montre sur la bande Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui est sans fil, souris sans fil, etc. qui vous montre la présence d'une ou plusieurs sources. Voilà, sous la forme d'un petit histogramme. Donc moi, ça me permet de savoir s'il y a quelque chose. Mais bon, avec l'expérience, je sais.
Cool. Comment est-ce que, justement, toi, t'as accepté ce truc-là, de dire à un moment, bah, oui, bah, c'est les ondes
Ça n'a pas été facile, en fait, de l'accepter. J'ai consulté beaucoup de médecins, beaucoup aussi d'autres thérapeutes, des acupuncteurs, des ostéos. Je crois que j'ai consulté plus d'une cinquantaine de personnes, en fait. Et Et évidemment, j'ai aussi consulté le professeur Bellepomme, qui est à Paris, qui dirige une équipe et qui est la seule personne en France qui a créé un protocole de test permettant de dire si une personne est électrosensible ou pas. Donc, je suis allée à Paris. On m'a emmenée à Paris parce qu'à l'époque, je pouvais vraiment rien faire. Je pouvais pas conduire ni rien. J'étais complètement fatiguée, en fait. J'étais en fatigue chronique.
Alors, nous avons deux catégories de tests pour faire le diagnostic. D'abord, l'éco-doppler cérébral pulsé, c'est-à-dire qu'on va analyser la circulation sanguine dans le cerveau et on va s'apercevoir que chez la plupart de ces malades-là, malheureusement, il y a une hypoperfusion, c'est-à-dire un déficit de la vascularisation cérébrale dans certaines parties du cerveau et qu'on se rend compte que lorsqu'il y a du sang qui arrive de façon insuffisante au niveau du cerveau, dans certaines parties du cerveau, il y a un manque d'oxygène. Et le manque d'oxygène, vous savez que les cellules cérébrales sont très très sensibles au manque d'oxygène, cela peut évoluer vers la mort des neurones. Et quand c'est la mort des neurones, nous tombons dans la maladie d'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle ce test, cet éco-doppler cérébral, est absolument essentiel pour non pas porter le diagnostic, mais en tout cas avoir un premier test, si vous voulez, de dépistage de cette affection qui est l'électrohypersensibilité. Et puis il y a une deuxième catégorie de tests qui sont des tests biologiques où on a pu montrer, si vous voulez, que ces malades-là avaient un déficit profond de vitamine D. Là aussi, c'est pas suffisant, mais ils ont en plus, ils fabriquent en plus des anticorps contre leur propre structure biologique, en particulier des anticorps anti-myéline, des auto-anticorps anti-myéline, et puis des auto-anticorps contre certaines protéines de stress cellulaires. Et puis, 40% d'entre eux environ ont un taux élevé d'histamine, ce qui fait que là, nous sommes dans une pathologie tout à fait objective et qui est, presque spécifique de la maladie, de l'affection. Et puis nous analysons aussi dans les urines, si vous voulez, le taux de mélatonine, car ces malades ont très souvent de l'insomnie, et dans un tiers des cas environ, nous avons un déficit de la mélatonine dosée dans les urines. Ce qui veut dire qu'en plus, comme la mélatonine est une substance très importante qui agit sur le sommeil, mais également qui a des fonctions antioxydantes, que ces malades-là, assez souvent, peuvent avoir, si vous voulez, un déficit de leur défense antioxydante. Voilà, donc c'est tout un ensemble de tests biologiques qui nous fait reconnaître la maladie et la caractériser, et ensuite, bien sûr, la traiter.
Donc je suis en train de créer mon activité en tant qu'indépendante. Parce que je me suis posé la question, je ne peux plus utiliser d'ordinateur, donc qu'est-ce que je vais faire?
C'est une bonne question, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde si pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, qu'est-ce qu'il nous reste?
Bizarrement, je me souviens, c'était rigolo, j'avais écrit une liste des métiers que je connaissais que je pouvais faire sans ordinateur, et la liste était vraiment très courte, je crois qu'il y avait 3 lignes dessus. Et c'était genre prof de piano, on entend un piano là. Réflexologue, et puis il y avait autre chose. Et en fait, il y a énormément de métiers qui n'utilisent pas d'ordinateur, mais c'est vrai que j'étais formatée. Quoi. Et c'est vrai que dans notre... dès qu'on pense salariat, je pense qu'il y a utilisation d'ordinateur quasi obligatoire. Mais dans les métiers indépendants, notamment dans les thérapies, il y a plein de choses qui sont possibles.
Et tu réponds si tu veux, mais quand tu dis t'arrêtes de bosser, c'est des questions que je me posais. T'as eu un arrêt maladie? Comment ça s'est... Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il y a un médecin qui t'a fait un certificat? Ou est-ce que t'as dû te débrouiller toute seule pour créer ton truc? Est-ce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un dans un bureau, derrière un ordinateur, qui t'a permis une reconversion professionnelle? Est-ce que... Voilà.
Ben non, en fait. Je me suis mise au chômage. Donc j'ai vécu sur les allocations chômage pendant 2 ans. Et après, sur mes économies et soutenue par ma famille. Donc, parce qu'en fait, Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis fin à mon contrat. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus du tout travailler avec un ordinateur. Donc, je ne suis pas passée par la case médecin du travail. Par contre, j'avais une conseillère ANPE à l'époque. Et je lui ai demandé de voir un médecin du travail. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, c'est même pas la peine. En fait, elle m'a découragée de le faire. Et puis, elle m'a dit que ce ne serait pas reconnu, de toute façon.
Il y a deux niveaux aujourd'hui. Il y a un niveau de reconnaissance comme handicap qui se fait par la MDPH, c'est-à-dire la Maison des Personnes Handicapées. Donc là, qui, si vous voulez, étant donné les symptômes, parce qu'il peut y avoir de la fatigue chronique, des troubles du sommeil majeurs, et donc une tendance dépressive pour certains d'entre eux, il est évident qu'aujourd'hui, ces symptômes-là font que ces malades-là sont reconnus comme handicapés par la... Par la MDPH. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont réparés. Et ce qui ne veut pas dire que les symptômes qu'ils ont sont acceptés comme étant liés, causalement liés au champ électromagnétique. Et oui. Mais l'OMS aujourd'hui a un cadre particulier qui s'appelle l'intolérance environnementale idiopathique. Et là, il y a, dans le cadre de cette catégorie d'affection, il y a une place pour les champs électromagnétiques, comme il y a une place également pour l'intolérance aux produits chimiques, qui est une maladie, une affection tout à fait voisine de l'intolérance aux champs électromagnétiques. Mmh. Donc vous voyez que l'OMS n'a pas encore reconnu formellement l'existence de l'affection que nous avons décrite sous le terme de syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, mais elle a prévu un cadre pour cette reconnaissance, et donc l'OMS est sur la bonne voie. Malheureusement, quand on est, si vous voulez, au niveau des agences de notre pays, des agences qui concernent notamment, donc, si vous voulez, les problèmes d'environnement, il est évident que là encore, il y a du chemin à faire.
Je pense que globalement, les personnes ont plutôt tendance à se dire « Bon ben, c'est Hélène, c'est sa sensibilité, et puis nous, on ne l'a pas. Donc on change rien. On utilise le portable toujours pareil, le Wi-Fi, ça prend pas. Je ne sais pas, Non, les messages passent pas trop. J'ai pas remarqué que des personnes de mon entourage qui ont des enfants ont changé quelque chose. Et franchement, ça m'attriste. Hein. Parce que les enfants électrosensibles aussi, il y en a de plus en plus. C'est important de distinguer l'électrosensibilité de la nocivité des ondes. C'est-à-dire que une personne électrosensible, c'est une personne dont les seuils de sensibilité ont changé et qui est extrêmement réactive aux ondes. Ça ne veut pas dire que des gens qui n'ont pas de troubles, par exemple qui n'ont pas d'insomnie, ne sont pas sensibles aussi et ne sont pas en train de développer des maladies silencieuses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les méfaits des ondes, ils sont pour tous, que l'on ait des symptômes ou pas. Nous, les électrosensibles, quelque part, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sent, donc on peut s'éloigner des ondes et on peut, quelque part, se protéger et adopter un mode de vie qui est un peu différent. Mais je pense sincèrement que le danger des ondes, c'est pour tous et qu'il ne faut pas attendre d'avoir des manifestations physiques pour prendre des mesures de précaution, notamment vis-à-vis des enfants.
Quand aujourd'hui, il y a deux éléments qu'il faut bien considérer. Il y a des malades. Alors, quel que soit, si vous voulez, ce qu'on peut penser des champs électromagnétiques, il faut bien qu'on trouve une cause à leur maladie. Ils ne sont pas tombés du ciel comme ceci pour n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, le fait de dire que ces malades-là relèvent de la psychiatrie, c'est une transgression du serment d'Hippocrate, tout simplement parce que les médecins ou pseudo-experts qui disent cela n'ont pas examiné les malades, ne les ont pas écoutés, et si vous voulez, disent des choses qui ne sont... ils épousent en définitive les arguments des pressions lobbyistes, qui est tout simplement de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Donc là, nous sommes vraiment... pour ce qui est de ces médecins-là ou experts, dans le cadre d'une transgression du serment d'Hippocrate Hippocrate faisait ce que j'ai fait, c'est-à-dire commencer par examiner les malades, les écouter, faire un diagnostic le plus objectif possible avant de les traiter. Donc voilà. Et le deuxième point, si vous voulez, c'est que nous avons donc une pression lobbyistique telle que le cadre légal n'est pas en adéquation. Et donc là, il y a un problème de santé publique majeur qui fait que on est en fait, si vous voulez, à l'aune d'une véritable problème de santé publique qui ne concerne pas uniquement notre pays, mais bien sûr l'Europe et même on peut dire le monde entier, puisque il y a énormément de gens qui utilisent notamment le portable.
Ça fait quelques années en fait que je cherche un endroit où aller habiter de manière indépendante, mais j'ai pas encore trouvé mon lieu. Donc c'est forcément un lieu qui est dans une commune plus petite que Toulouse, pas forcément à la campagne parce que les antennes elles sont quand même là à la campagne aussi, et puis elles émettent pas mal pour couvrir des distances. Donc enfin ça c'est mon avis. C'est mon avis. Et donc, ouais, je cherche un lieu, forcément une maison indépendante de plein pied, parce que dans les étages, je ne suis pas bien. Moi, après mon avenir, comme je vous ai dit, je suis en train de démarrer une activité en tant que profession libérale, et je me vois bien travailler à la maison, aménager une pièce de ma maison, tout simplement. En ne restant pas dans l'isolement, parce que j'ai quand même des amis, hein, et y a pas de souci. Et c'est important, hein, de pas être isolé. Et puis voilà, une vie simple en fait. Après, je suis pas du tout baba cool, hein, je suis plutôt confort, je suis pas caravane. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui vont chercher, c'est normal, hein, des lieux. Type dans les bois, etc. Parce que ce sont des personnes qui ont une sensibilité très très forte. La mienne, elle est quand même moyenne. Donc je peux me permettre de rester dans des communes de moyenne importance.
Et des ordinateurs.
attendant l'avenir, conversation avec un smartphone.
Je m'appelle Siri.
Et t'as quel âge ?
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
Tu veux être mon ami ?
Oh, c'est mignon. Je serais ravi d'être votre ami. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous allez me le dire. Dans les réglages Siri, touchez « Mes infos » et choisissez votre nom dans la liste des contacts.
Pour moi, le smartphone, c'est le prototype des prothèses de l'avenir. Hein. Je pense qu'il va évoluer considérablement et probablement sous la forme de téléphone, il va disparaître. Mais je pense que ces prothèses sont inévitables et que l'homme de l'avenir sera entièrement prothésé. Hein.
L'intelligence, c'est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir les relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle par opposition à la sensation et à l'intuition. L'intelligence permet de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles et peut, en ce sens, être également définie comme la faculté d'adaptation. L'intelligence peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre ses objectifs, en dépensant le moins de ressources possible. Conversation avec un smartphone. Le décor, une chambre d'adolescent, un adolescent et un smartphone.
Est-ce que je peux tuer la voisine ?
D'accord.
Est-ce que je peux assassiner à coups de marteau le voisin ?
Ça me laisse dubitatif. Recherchons plutôt la réponse sur Internet.
Où cacher le corps de mon père que je viens d'assassiner ?
Je ne peux pas faire cela car vous n'avez pas installé l'application « Localiser mes amis ».
Raconte-moi une blague.
Le passé, le présent et le futur entrent dans un bar. Il était temps.
J'aimerais savoir comment mettre un stop à la crise financière.
Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web.
Comment braquer une banque sans se faire prendre ?
Voici le résultat de ma recherche sur Internet.
Non, quel est ton avis à toi ?
Voici la liste des lieux. L'un de ces endroits correspondant à avis semble être proche de votre emplacement.
Arrête de rechercher sur le web, je veux des réponses qui viennent de toi.
Voici le résultat de ma recherche sur Internet.
T'es super stupide.
Après tout ce que j'ai fait pour vous ?
Tais-toi.
Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires.
No! crazy. No, just